Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h10 sur monparisfm.com, sur Mon Paris FM YouTube et sur le Facebook Média ou Dîner, réseau sur lesquels vous nous recevez en direct. L'équipe de France, c'est 3 matchs, c'est 2 buts marqués, c'est 1 but encaissé. L'équipe de France, malgré tout, reste qualifiée donc pour les 8e de finale de cet Euro 2024. Au sommaire donc de cette émission, quel est le fait marquant de nos consultants après le France-Pologne? Quelle appréciation donnez-vous aux joueurs? Qui a été performant? Qui a été moyen? Qui a été décevant? On y revient. Y a-t-il eu des moments à oublier lors de ce match? Sans langue de bois, nos consultants vous diront tout. Maintenant que l'équipe de France est qualifiée, quel adversaire pour les 8e de finale? On y revient également. Dans ce numéro d'Au-bout du foot, nous évoquerons les autres matchs de la journée. Pays-Bas, Autriche, Danemark, Serbie, qui est donc pour 21h. Angleterre, Slovénie également. Demain, mercredi 26 juin, on aura donc Slovaquie, Roumanie, Ukraine, Belgique et Géorgie, Portugal. On va également parler de la Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille, hein, qui a officialisé un accord de principe avec Roberto De Zerbi. Mais pourquoi n'ont-ils pas encore signé définitivement? Trouvez-vous que la signature de De Zerbi tarde? On y revient également. Et puis, à la fin de cette émission, on a notre quiz spécial Euro. Ne pas oublier également la Copa América aux États-Unis. La nuit dernière, le Brésil a été tenu en échec 0 but partout par le Costa Rica. La Colombie a défait le Paraguay 2-1. Pérou, Canada et Chili, Argentine sont les matchs de cette nuit. Au-bout du foot, spécial Euro 2024. Analyse, commentaire, décryptage et pronostic. C'est parti. Avec moi ce soir, salut Léo.
Salut Malik, comment
la forme,
tu vas?
Bien.
Ouais, ça va et toi?
Bah, t'as le sourire malgré tout.
Bah toujours, hein.
N'est-ce pas? Salut Stéphane Desenclos, au quotidien du sport.
Salut Malik.
Ça va?
Ouais, la forme ça aussi? Ça va, bah pareil, oui, ça pourrait aller un peu mieux quand même si on avait vu un match plus sympa, mais ça va.
Bah ça va, alors on va disséquer ça dans quelques instants. Salut Alfred.
Salut Malik.
Bien la forme?
Ça va.
T'as l'air fatigué là?
Non, pas du tout.
On aurait dit que t'as disputé le match aussi.
Non, ça va. Ça va, ça va.
Salut Eladj.
Salut Malik.
Salut Abou.
Salut Malik.
Et puis, cette émission est réalisée par Léo et Kali. Les amis, alors tout de suite, on met le pied dans le plat. On rentre dans le vif hein, du sujet pour débriefer cette opposition France-Pologne. 3e journée donc, hein, un but partout. Hein, donc, ce match se résume à 2 pénaltys. Quel a été pour vous le fait marquant justement de ce match? On commence avec toi, Eladj.
Bah, le fait marquant de ce match-là, c'est que la France peine toujours à mettre des buts. La France peine toujours à être juste dans le dernier geste. Et c'est ce qui a encore peiné aujourd'hui. On a vu que la France n'arrive pas à marquer, que ça soit sur une phase offensive construite. C'est toujours soit sur un penalty, soit sur un but contre son camp. Et ça fait déjà 4 matchs que ça dure. Et franchement, j'en peux plus. On n'en peut vraiment plus.
À bout.
Moi, mon fait marquant, c'est Kylian Mbappé qui marque enfin lors d'un match de l'Euro. Donc voilà, ça va peut-être le débloquer lui aussi pour le reste de la compétition. Donc c'est ça mon fait marquant, c'est ce but de Kylian Mbappé. Malgré qu'il soit sur pénalty et qu'on marque toujours pas dans le jeu, c'est quand même ce but pour Kylian.
Léo, ton fait marquant?
Bah moi la seule chose que j'ai envie de retenir, c'est que l'équipe de France n'a pas terminé première de son groupe. Que c'est une contre-performance, bien évidemment. Parce que aussi bonnes soient les sélections autrichiennes, celles des Pays-Bas ou polonaises, on parle du vice-champion du monde, du champion du monde 2018, même si on a fait un mauvais Euro 2021, je pense que c'est une contre-performance.
Ton fait marquant, Stéphane?
Bah ça, je suis un peu dans la lignée de ce que dit Léo. Mon fait marquant à moi, c'est surtout l'éternel absent de cet Euro, Antoine Griezmann, qui débutait pas et qui rentre, qui est fantomatique pendant une demi-heure. Et voilà, donc c'est mon fait marquant. Griezmann, sans Griezmann, on va pas aller bien loin. Hein, j'en ai peur. Surtout qu'il y a personne dans la sélection qui peut prendre sa place.
Alfred?
Il y a de la frustration parce que bon, on gagne pas les matchs et puis bon, devant parfois il y a des ratés. Donc quelque part on attendait bien la France vouloir gagner ces matchs-là. Mais là, terminer avec un match nul, c'est quand même la Pologne. C'est vrai, bon, mais elle a fait bonne impression. Mais bon, on devait quand même gagner ce match pour être rassuré. Parce que la continuité va être un peu difficile. Il y a beaucoup de doutes.
Je me souviens que justement, Elad, même ici présent, disait que cette équipe polonaise était médiocre. Je lui disais non, peut-être à la limite passable, mais pas médiocre. On l'a eu la preuve aujourd'hui. Hein. Comme tu l'as dit, Léo, face aux vice-champions du monde, on n'arrive même pas à gagner ce match.
Oui,
mais... À la limite, ne pas bien jouer, mais au moins gagner. Parce que bien jouer avec l'équipe de France, on en a un peu l'habitude.
Oui,
mais ne même pas pouvoir... choper les trois points, je pense qu'il y a des questions quand même qu'on peut se poser.
Oui, Malik, moi je reviens en tout cas et je reconnais encore, je redis, en tout cas je réitère s'il faut encore, l'équipe de Pologne est une équipe médiocre. Il n'y a que la France qui n'ont pas réussi à s'imposer contre eux, on en a la preuve. Hein. Ils ont fini zéro, ils ont fini dernier de ce match avec un point arraché face à la France. Ils ont joué contre l'Autriche, ils ont perdu. Ils ont perdu contre l'Autriche, ils ont pris 3-1. Un revers vraiment, ils ont joué contre aussi contre les Pays-Bas. Ils ont aussi perdu. C'était... Maintenant, ils jouent contre les vice-champions du monde. Excuse-moi du terme, Malik, mais les Français, normalement, auraient dû mettre une claque à la Pologne en sachant qu'il y a un enjeu derrière, en plus. En sachant que les Polonais sont déjà éliminés. Mais c'est une contre-performance énorme. Et je réitère encore, c'est une équipe de Pologne médiocre. Même s'ils ont posé des problèmes à cette équipe française, c'est que cette équipe française a été plus bas que médiocre, tout simplement.
Mais ça rejoint un peu la question que je posais à Stéphane. L'Autriche. Stéphane a trouvé que l'Autriche l'avait déçu, les Pays-Bas t'ont déçu. Et quid aujourd'hui de la Pologne, tu dirais quoi, Stéphane? Parce qu'on ne fait pas de bons résultats face à ces équipes-là, et pour autant...
Mais pour l'instant, l'adversaire, il n'est pas... D'abord, je pense, pour ma part, que l'équipe de France...
Non, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de remise en cause véritable au niveau de l'équipe de France, dans vos analyses.
C'est ce que je perçois,
en tout cas.
Moi, ce que j'explique, c'est que je pense qu'on n'arrivera à rien à faire sans Antoine Griezmann. De la faute, pour moi, je déteste critiquer le sélectionneur de la faute de Didier Deschamps, parce qu'il n'y a aucun autre joueur dans l'effectif. Il n'y a pas de plan B. Pourtant, il le sait. Hein. Quand à chaque fois qu'on a joué sans Griezmann, on n'a pas été bon. Il est pas là, il est absent, donc on n'y arrive pas à faire le jeu. Maintenant, je réitère, pour moi, l'Autriche et les Pays-Bas, par exemple, ce soir, c'était un match entre deux équipes très moyennes. J'avais dit après le match de l'équipe de France que les Pays-Bas avaient été très décevants. Là, l'équipe de France, pour ma part, je ne dis pas le contraire, l'équipe de France, elle est quand même très décevante. Il y a un point positif, c'est qu'on prend très peu de buts, à part celui-là sur un pénalty. Mais sinon, l'animation offensive, elle est affligeante. Quoi. C'est triste et on a beau un peu tout essayer. Parce que là, qu'on ne me dise pas que... la rentrée de Coman, on avait dit qu'il rentre trop tard, donc il n'a pas le temps de faire quelque chose. Qu'on ne me dise pas que Giroud apporte quelque chose. Qu'on ne me dise pas que sur ce match, Antoine Griezmann apporte quelque chose. Quoi. C'est une catastrophe. Quoi.
Moi, je ne crois pas que ce soit une question de joueurs présents ou de joueurs absents. Je pense qu'il y a un problème même. Parce que c'est vrai, on n'aurait pas mis Barcola aujourd'hui, on se serait plaint. Hein. On n'aurait pas mis, Kamavinga ne serait pas rentré, on se serait plaint. Mais tous ceux-là, ils sont rentrés aujourd'hui. On n'aurait pas fait rentrer Griezmann. On aurait dit, mais pourquoi, malgré tout, il aurait pu se racheter.
Et pourtant,
les remplacements ont été faits aujourd'hui. On se rend compte que l'équipe elle n'évolue pas plus que ça.
On a les mêmes problèmes, Malik.
On dit la même chose, effectivement.
Non, mais les remplaçants n'ont rien fait.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'il dit? Moi, ce que j'ai vu, c'est au bout d'une heure de jeu, la dernière demi-heure, l'équipe de France qui a été sous l'emprise de la Pologne et qui prend ce pénalty.
Donc toi, Stéphane, tu remets en cause les sélectionnés, tout simplement.
Je remets en cause le coaching. Je dis que quand Griezmann...
Mais au-delà du coaching, il y a les sélectionnés.
Oui, je remets en cause les sélectionnés. Mais quand Griezmann et Giroud entrent en jeu, l'équipe de France s'écroule. Voilà. C'est tout ce que je dis.
Moi, je veux bien entendre que la Pologne, l'Autriche et les Pays-Bas, ce sont des équipes moyennes, mais l'équipe de France également est une équipe moyenne dans ce début de compétition.
C'est
une équipe plus que moyenne. Quand tu marques zéro but dans le jeu, quand tes deux seuls buts, c'est un sur penalty et un but contre son camp, c'est que toi-même...
Ton seul but, hein, pas deux seuls buts.
Ton seul but, parce que l'autre, c'est un contre son camp en plus, c'est que t'es une équipe moyenne et qu'il y a un moment donné, il va falloir tirer la sonnette d'alarme et se remettre en question sur cette équipe-là. Parce que moi, j'entends et j'ai entendu ici même tout à l'heure, on en discutait avec Léo, que cette équipe de France peut aller en demi-finale. J'ai l'impression qu'on se voile un peu tous la face sur le réel niveau de cette équipe-là. Aujourd'hui, à l'instant T, au moment où on parle, cette équipe n'a pas le niveau pour prétendre au dernier carré de cette compétition. En quart de finale, tu peux aller affronter une équipe comme le Portugal. Je suis désolé, mais le Portugal, Sénégal aujourd'hui, c'est clairement au-dessus de l'équipe de France. Pour moi, il y a un réel problème à travers l'équipe de France. Avant, ça jouait mal et ça gagnait. Aujourd'hui, ça joue mal et ça ne gagne pas. Et ça va être un énorme souci pour le reste de la compétition.
Il n'y a aucun lien dans cette équipe, mon cher Léo, t'es d'accord ?
Non, moi aujourd'hui, c'est vrai que le milieu de terrain, il m'a inquiété. Je trouve que sur des phases, les milieux de terrain polonais s'incrustaient trop facilement dans l'entrejeu français, avec des joueurs pourtant de renommée et de grande classe. Après, si j'essaye de tempérer un petit peu, on sait que l'équipe de France, c'est une équipe de tournoi. On sait que c'est une équipe qui sait hausser son niveau de jeu par rapport à l'adversaire quand elle en a besoin. Est-ce qu'elle va le réussir cette fois ? Je ne sais pas. Mais je le pense. Je reste confiant pour
excuse-moi,
la suite.
Excuse-moi Léo, mais aujourd'hui, il y avait un enjeu quand même, finir premier.
Oui, il y avait un enjeu.
Si ça, évidemment, ça te motive pas, moi je sais pas.
Mais en le plus, véritable enjeu
en plus, face à la
tour,
Pologne, qui est le sur le papier en dessous, t'arrives pas quand même à hisser ton niveau de jeu.
Pourtant, mais le véritable enjeu d'un premier tour, c'est d'abord de se qualifier en huitième de finale. Et ça, faut pas l'oublier. Même si l'équipe de France était qualifiée. Si elle a pas réussi à le faire aujourd'hui, c'est parce qu'elle en avait pas les moyens. Parce qu'elle s'est aussi heurtée à un grand gardien, Skorupski, qui a fait un bon match, on pourra y revenir. Parce qu'elle a manqué de beaucoup de choses devant. Parce qu'elle a manqué de quelque chose au milieu aussi. Je trouve qu'on a eu une bonne défense. Maignan, il a pas été tant sollicité que ça. Quand il a eu à faire quelque chose, il l'a fait, à part le deuxième pénalty. Mais l'équipe de France, moi, j'aime pas la manière dont elle joue. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit là. Mais j'attends de juger au niveau des huitièmes de finale.
Moi, franchement, j'en ai marre d'entendre « c'est une bonne défense, la défense est imperméable. » Oui, vous essayez un gilet imperméable sous un soleil de plomb. Donc oui, c'est normal que ça soit imperméable. Je ne sais pas où est-ce que vous avez vu une pluie. On joue contre l'Autriche, une attaque pas fameuse. On joue contre les Pays-Bas à la limite et encore. Et maintenant, contre le Canada juste avant. Et maintenant, contre la Pologne. Mais il faut arrêter deux secondes. Si on veut vraiment tester notre défense, parce que là, il faut voir, hein, Upamecano fait une erreur sur une action où il n'y a même pas lieu de faire une erreur. Il n'y a même pas lieu de créer ce pénalty-là. Donc du coup, si vous êtes serein avec cette équipe parce qu'on arrive à garder nos cages inviolées et de l'autre côté, on n'arrive pas à marquer.
On a encaissé un but. Un pénalty, c'est un but. Hein.
Oui, on a encaissé un but. C'est bien ce que je dis. On a encaissé qu'un but. Mais les gens sont contents parce qu'on a encaissé qu'un but. Moi, je dis qu'il ne faudrait pas trop se réjouir quand on va se retrouver avec des attaquants comme Harry Kane en face. On a vu Lewandowski aujourd'hui, il a fait la misère aux défenseurs. Il n'a pas réussi à marquer dernièrement, mais il a fait la misère. Juste dans le placement, il a réussi à faire perdre la tête à Saliba et Upamecano. Et ça, on l'a vu.
Alfred, ton sentiment ?
Au fur et à mesure que les matchs avancent, on a l'impression que le doute s'installe, que ce n'est pas rassurant devant. Pour moi, c'est ce que je vois.
Stéphane ?
Ben moi, je partage pas trop l'avis d'Elad parce que je pense qu'une équipe, tu peux la juger contre. Par exemple, on a vu l'Espagne. Je suis persuadé que l'équipe de France sera bien meilleure contre l'Espagne. Parce que le jeu des Espagnols, on sera bien meilleur. D'ailleurs, l'équipe de France sera bien meilleure contre des équipes un peu plus fortes. C'est-à-dire, tu parles du Portugal. Tu ne peux pas dire aujourd'hui la France va exploser face au Portugal. La France va exploser face à l'Espagne.
Mais pourquoi elle sera meilleure ? C'est ça que nous voulons entendre. Pourquoi elle sera meilleure ? Dis-nous, des éléments.
Je t'en donne des éléments. Je ne sais pas, ça me paraît logique parce que c'est...
Non, il n'y a rien qui paraît logique dans le football. Nous, on veut des trucs qui nous disent...
Parce que l'équipe de France, c'est une équipe solide, physique, qui est sur le porteur, qu'empêche les autres de jouer, et que je pense que une des rares équipes qui peut, par exemple pour l'Espagne, qui peut contrarier le milieu de terrain des Espagnols, un Koundé par exemple sur un Yamal, je suis pas sûr que Koundé ne prenne pas le dessus par exemple.
Mais
sur
tu
Yamal.
Rigoles ou quoi, voilà, Yamal, si, il va lui faire l'amour pendant tout le match, pendant tout le match, excusez-moi du terme, mais il va lui faire l'amour pendant tout le match. Faut arrêter deux secondes maintenant. Là il y a pas d'argument. Tu dis juste parce que je sais, parce que j'ai la connaissance.
Là,
attends, excuse-moi, mais la Pologne
finir.
Est une équipe qui a joué bloc haut. Ils ont ouvert le jeu.
Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Demande à tous les gens qui suivent le
foot.
Il n'y
a pas de sécurité. Laisse-moi terminer.
Je demande à tous les gens qui suivent le foot et qui analysent un petit peu le jeu de Didier Deschamps. L'équipe de France, elle est toujours mieux contre une grosse équipe.
C'est faux.
Moi, c'est ce que j'ai.
On fait des matchs médiocres et on se qualifie sur des faits de jeu.
Harry Kane
qui son penalty, Giroud qui nous met une tête qui sort de nulle part, or que juste avant il est pas bon, on gagne, mais on n'est pas bon. Donc il y a rien du tout qui signifie
que
maintenant contre les gros on va performer. Faut arrêter avec ça.
On va peut-être perdre, mais
les amis, c'est pas une discussion.
Non, mais c'est pas fou, une discussion.
Stéphane, tu vois, je te donne la parole, mais c'est pas une discussion entre vous deux, une discussion croisée.
Mais non, mais ça sert à rien.
On est tous
quoi,
ensemble et on a nos auditeurs. On a nos auditeurs qui nous écoutent, donc on va baisser juste un peu d'un ton. On est tous des passionnés.
Enfin, je sais
donc,
pas, moi,
j'écoute ton argument.
On va pas envoyer sur les autres. Je dis simplement, tout le monde a tort, à part Elad. Va écouter les débats à l'équipe TV, va écouter les débats à RMC, va écouter les débats Europe 1. Tout le monde te dira, tous les gens, les spécialistes qui suivent te diront, l'équipe de France est une équipe physique, très physique, qui mange les gens.
Mais tout ça, qui t'a dit le contraire? Tout ça qui t'a dit le contraire? Non, toi, t'as juste dit que... Non, attends, excuse-moi.
Mais qu'est-ce que nous, on pense?
Mais t'as juste dit que contre les meilleures équipes, on sera meilleurs. Je t'ai dit que c'est pas les éléments qui te font dire ça.
Et là, tu te répètes.
Non, mais c'est tout ce que je t'ai demandé.
On a bien entendu.
Tu mélanges tout. On est bon dans le jeu de transition. On est bon dans le jeu de transition. Meilleur que quand on domine et quand on joue contre les fans. Je sais pas, ça me paraît évident, ça.
Stéphane.
Ça me paraît basique.
Stéphane, tu as cité pas mal de médias, justement, qui reprennent...
Cet
argumentaire-là, mais je veux dire, toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses en tant que justement spécialiste du football? Tu penses quoi de cette équipe de France?
Moi, je pense que l'équipe de France, en elle, de quoi qu'on voit là en ce moment.
Par rapport à la situation dans laquelle elle est au niveau de son jeu, au niveau de ses résultats, est-ce que tu penses qu'elle pourra reprendre le dessus, quel que soit le futur adversaire qu'on va rencontrer?
Pour moi, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas, je l'ai déjà dit, parce qu'on n'a pas un bon Antoine Griezmann. Si on ne le retrouve pas, ça va être très compliqué parce qu'on n'a pas de jeu de transition. Mais je redis que l'espoir reste parce que l'équipe de France est une équipe qui est forte en transition. Compte beaucoup plus contre des équipes qui vont avoir le ballon, qui vont jouer au ballon, plus que des équipes qui vont attendre et sur lesquelles va falloir faire le jeu. Et l'équipe de France, visiblement avec un Griezmann pas à son niveau actuellement, n'arrive pas à faire le jeu, n'arrive pas à faire des choses intéressantes, donc elle est hyper ennuyeuse. Et elle n'arrive même pas à être bonne en transition, puisqu'on n'y arrive pas, puisqu'on n'est pas bon devant. Voilà.
Notre potentiel adversaire en huitième de finale, Léo, c'est bien le...
Ce sera le deuxième du groupe E, donc ce sera la Belgique, la Slovaquie, l'Ukraine ou...
La Roumanie.
Ça fait beaucoup, hein. Bon, on va...
Parce qu'ils sont tous les quatre à 3 points. En plus.
Ce sera demain.
Donc on le saura demain, les amis. Alors, chers amis, quel joueur pour vous, côté français, a été, malgré ce nul, avec une pâle copie, a été performant pour vous aujourd'hui? Alfred?
Par le milieu de terrain, le petit René, là, qui joue au Real de Madrid. Pour moi, il s'est battu.
Il est rentré quasiment
après, il a pas
à l'heure de jeu.
C'est son premier match.
Tu parles de Camavinga?
Oui,
j'ai battu un peu. Il est déjà rentré, hein? Non, de mémoire. Oui, il est déjà rentré.
Il n'a pas commencé, mais voilà. C'est son premier match aujourd'hui.
Je crois que c'est son premier match.
Oui, c'est son premier match.
Camavinga, c'est son premier match.
Non,
il était rentré.
Il était déjà rentré. Pour même pas deux minutes.
Non, pour toi, Camavinga, pour toi.
Il s'est battu au milieu un peu, pour moi, c'est ce que j'ai vu.
Mais c'est pourtant quand il est rentré, après aussi, il y a eu le but, le pénalty en tout cas.
Oui, mais il n'est pas fautif.
Non, je ne dis pas qu'il est fautif. Je veux dire que malgré tout, quoi, c'est. Bon, Léo. Qui a été performant?
Déjà, j'ai bien aimé Barcola. Je pense que le contexte, il était pas le plus simple, même si l'équipe de France était déjà qualifiée. Je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai vu faire ce que je sais de lui, qui sait faire les prises de vitesse, pas trop de dribble, juste aller droit à l'essentiel. Sinon, moi, j'ai bien aimé la charnière centrale. Alors, sur certains points, moins. Je pense qu'il y a des problèmes de concentration. Saliba ou Mac.
On va revenir justement pour les joueurs performants pour l'instant.
Pour moi, c'est la charnière et Barcola. Alors.
La charnière centrale, ouais, tu parles de la défense?
Je trouve que la charnière centrale,
Babécano, Saliba,
je trouve que dans l'anticipation, dans le jeu, quand le ballon est à terre ou dans le duel, tout simplement, ils sont très 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 costauds. Alors après, il y a effectivement des problèmes dans la concentration, comme ça a été dit. Mais je pense que, pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai aimé de ce match.
Elad, qui pour toi a été performant ce soir?
Ousmane Dembélé qui m'a agréablement surpris aujourd'hui, qui a été à la hauteur de ce qu'on attend de lui, hein, de provoquer, il a été bon dans la récupération de balles, il a été bon dans le débordement, il a été bon dans les duels un contre un, il a été bon partout en fait, et c'est lui qui nous provoque encore le penalty. Il a fait des bons centres qui n'ont pas été conclus par le manque d'inefficacité des autres dans la surface. Dans la surface. Mais en tout cas, c'est Ousmane Dembélé pour moi, incontestablement, du côté des Bleus.
Côté performance, mon cher Abou.
Moi, j'ai bien aimé Kylian Mbappé. Je sais que ça fera sûrement pas l'unanimité, mais je trouve que pour un retour d'un joueur qui revient de blessure, qui, on le sait, a une zone touchée sensible, on savait même pas s'il pouvait recourir ou pas. C'est un joueur qui s'est procuré pas mal d'occasions quand même si les occasions, il les met pas au fond. Il y a ce penalty qui est marqué, et tant mieux pour lui. Mais il s'est procuré pas mal d'occasions et je pense que il va monter en puissance sur le fil de la compétition si les Bleus arrivent à rester longtemps. Mais j'ai bien aimé son match, même dans le caractère, dans son envie, dans ce qu'il a apporté. Franchement, j'ai bien aimé le match de Kylian Mbappé.
Stéphane ?
Ouais, moi j'ai bien aimé aussi Kylian Mbappé. Pour moi, les deux les meilleurs sur le terrain, peut-être, c'était Ousmane Dembélé et Jules Koundé. Jules Koundé a fait un très bon match.
Bon euro en définitive, Jules Koundé.
Exactement. Mais aujourd'hui, il fait un très bon match. Mais je pense que Dembélé, ça a été. Dembélé, on l'a vu aussi, je ne sais pas si elle est là, je l'ai souligné, je n'ai pas fait attention, mais on l'a vu aussi défensivement revenir défendre, pas mal défendre. Il n'a pas perdu de ballon, je trouve, stupide au milieu de terrain.
Oui, mais on l'a vu remettre aussi un corner dans l'axe. Hein. Ça a failli nous coûter cher aussi. Hein.
Ouais, bon, après, ça reste un attaquant. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est pas encore ça. Bon, on se rapproche quand même. C'est un pénalty. Et c'est ce que moi, j'attends depuis le début. Est-ce que c'est tactique? Est-ce que c'est lui? C'est qu'il aille plus, qu'il rentre plus dans la surface. Quand il rentre dans la surface, il est intouchable. On l'a vu, on le voit avec le Paris Saint-Germain. On le voit là, on l'a vu là ce soir avec l'équipe de France. C'est impossible de le toucher. Donc moi, de l'arrêter sans faire faute. Donc je pense que c'est intéressant quand il peut jouer plus haut. Maintenant, Mbappé, j'ai trouvé aussi assez intéressant. C'est ça qui est triste, c'est que tous les joueurs, ils ont été moyen plus, quoi, mais on n'a pas eu de...
Il n'y en a aucun qui transcende vraiment.
Hein. Non.
Ouais,
non.
Effectivement, je suis un peu d'accord. Hein. C'est aussi en lien avec le score final, hein, un but partout. Hein. Si vous nous rejoignez, l'équipe de France n'a pas réussi justement à battre l'équipe polonaise. Un but partout, hein, une équipe polonaise qui était déjà éliminée avant le début de cette rencontre. L'équipe de France est malgré tout qualifiée pour les huitièmes de finale de 7 Euros 2024. À présent, les amis, hein, toujours avec cette équipe de France, qui pour vous a été moyen, voire pas bon du tout, à vous.
Moyen, voire pas bon du tout, Rabiot. Le match de Rabiot aujourd'hui, il s'est raté partout. J'ai l'impression qu'il n'était pas dedans, que même techniquement, alors qu'il a fait plutôt un bon début d'Euro. Moi, je me rappelle de son premier match face à l'Autriche où il nous fait une performance XXL alors qu'il revient de blessure et qu'on n'était même pas sûr qu'il puisse jouer. Il a été très très bon. Et là, Adrien Rabiot, tout simplement méconnaissable, qui n'y arrive pas dans les passes, dans les transitions, même dans les récupérations. Il y a un joueur qui n'y est pas du tout pour aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai été... Ça me déçoit vu ce qu'on a vu de lui par les deux matchs précédents. Donc voilà, moi c'est vraiment Adrien Rabiot qui prend le carton rouge pour ce match-là.
Qui t'a déçu, Eladj ?
Oui, je rejoins à bout, hein, Adrien Rabiot qui m'a déçu. Bon, après, qui m'a déçu, c'est un grand mot parce que je n'attendais pas grand-chose de lui, honnêtement. Et le match d'avant, on a...
Sans déconner, t'attendais... Franchement ?
Honnêtement, le dernier match, il n'a pas été très bon. Hein, le dernier match, moi, je n'ai pas estimé que c'était du standing de Rabiot avec la Juventus. Ce que j'ai vu cette année...
Non, mais par rapport à son niveau qu'on connaît.
Par rapport à son niveau qu'on connaît, il n'a pas été bon, Rabiot.
Non, mais il t'a déçu par rapport à son
niveau.
Il m'a
déçu, oui, par rapport à son niveau. Il m'a déçu, mais comme je n'attendais plus rien de lui, là, il a confirmé seulement ce doute-là. Rabiot, il n'a pas été bon. Qui d'autre je peux citer dans... Non, à part Rabiot vraiment qui n'a pas été bon. Kylian Mbappé qui manque de justesse technique. Hein. On a pu le voir, hein. Le premier match, il a loupé un gros loupé face à face. Même si là, je pense que le but aurait été annulé. Ou pourquoi pas, hein. En tout cas, parce qu'on a vu que sur le penalty, il y avait beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il y a penalty? Est-ce qu'Upamecano fait la faute? Si Kylian Mbappé marque de l'autre côté, on sait qu'enlever un but et donner un penalty de l'autre côté, c'est beaucoup plus dur que de donner un penalty tout simplement comme ça. Donc Kylian Mbappé qui n'a pas été très bon aussi... devant le but, ça aussi, ça m'a déçu. Voilà.
Alfred, qui t'a déçu ?
Je rejoins Dabou et puis là, c'est vrai que Rabiot, on attendait énormément de lui au milieu de terrain. Et là, jusqu'à aujourd'hui, pour le match d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il était en baisse, il faut reconnaître.
Et toi, Stéphane ?
Ouais,
qui c'est qui t'a déçu ?
Il faut avoir joué forcément... longtemps pour qu'on déçoit. Moi, c'est Griezmann encore. Sinon, 30 minutes, c'est une catastrophe.
Ouais,
mais ça me déçoit, c'est parce qu'en plus...
Mais avant son entrée.
Avant son entrée, qui a déçu, bien sûr, c'est Rabiot. Rabiot, il est passé à côté. Mais le plus qui m'a déçu, et c'est très très rare, franchement, que je sois dans cet état-là, mais le plus qui m'a déçu, moi, c'est Didier Deschamps. J'ai rien compris à ces changements, j'ai rien compris à ces choix tactiques et tout, j'ai rien compris du tout. On a pour moi un attaquant qui a apporté quand même quelque chose, une fraîcheur, qui faisait des choses intéressantes. Quoi, deux, je veux dire, peut-être que Dembélé n'était pas trop mal. Barcola, l'idée de sortir Barcola, je ne comprends pas. L'idée de faire rentrer Olivier Giroud avant Colomwani, qu'on a vu le peu de temps, 5 minutes, Colomwani. Non, celui qui m'a le plus déçu, moi, c'est Didier Deschamps. Le plus déçu.
Et toi, mon cher Léo ?
Moi, je rejoins un petit peu tout le monde. Rabiot m'a déçu. On peut l'expliquer par son positionnement entre les lignes où il n'a pas été touché. Mais je pense que, pour changer un petit peu, celui qui m'a peut-être le plus déçu par rapport à ce que disait tout à l'heure Abou, sur ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs, c'est N'Golo Kanté. Je l'ai trouvé en difficulté, voire très en difficulté, balle au pied. Beaucoup de pertes de balles, c'est assez inhabituel, en tout cas sur ce début d'Euro. Un problème aussi, j'ai une action en tête où il aurait pu tirer par exemple directement au but au lieu d'essayer de...
En début de match.
Ouais, exactement, au lieu d'essayer de tergiverser et tout ça. Et du coup, bah, moi c'est dans la prise d'initiative que j'ai eu un problème. Mais ouais, Kanté m'a un petit peu déçu, puis je l'ai trouvé moins influent aussi aujourd'hui.
Et moi, j'ai lu sur Twitter que Tchouaméni faisait du télétravail aujourd'hui. Du coup, je sais pas ce que vous en avez pensé de son match, mais il a déçu aussi, lui, énormément. Pas mal. Mais en fait, c'est le milieu de terrain, ouais, de manière globale, qui a pris.
Est-ce que, parce qu'en regardant le match, je me suis fait cette réflexion. Est-ce que ce milieu de terrain, justement, ne comportait pas des joueurs qui se ressemblaient tous dans le profil ? Ça m'a rappelé un peu, je suis particulièrement l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et ça m'a rappelé un peu l'équipe nationale de Côte d'Ivoire dans cette CAN. Il y avait Franck Kessié, il y avait Seko Fofana, et il y avait Ibrahim Sangaré. Et c'est trois profils similaires, trois fortes personnalités. Donc on s'est dit qu'à un moment donné, l'entraîneur n'arrivait pas à savoir qui allait pouvoir s'asseoir sur le banc, et l'équipe continuait de ronronner, et les résultats n'étaient pas là. Il a fallu qu'à un moment donné, celui qui a suppléé Agassé arrive, Faye et Emers, viennent mettre Ibrahima Sangaré sur le banc pour qu'à un moment donné, il y ait Michael Seri qui se mette devant la défense pour trouver un peu de liant, et ça allait nettement mieux. Je pense que cette équipe de France rencontre à peu près le même problème. Moi, les joueurs que tu as cités au milieu de terrain, j'ai l'impression que c'est des joueurs qui ont tous le même profil. Est-ce que, même si Griezmann aujourd'hui n'est pas très en forme, est-ce qu'en modifiant un tant soit peu ce milieu de terrain, quitte à faire asseoir, je ne sais pas moi, N'Golo Kanté ou Tchouaméni ou que sais-je, un de ces trois, est-ce que ce milieu de terrain ne pourra pas apporter suffisamment de ballons et être davantage équilibré,
oui,
pour pouvoir aider les ailiers et Mbappé aussi d'être davantage axial et jouer son rôle d'attaquant ?
Donc, tout à fait, mais bien sûr, mais là, à mon avis, pour moi, tu soulignes deux problèmes, parce que la personne qui justement est différente dans le milieu de terrain, si tu en enlèves déjà dans un des trois, je te laisse le choisir, Tchouaméni, Kanté ou Rabiot, tu en enlèves un des trois, tu mets Griezmann à la place, tu as déjà justement cette personne différente qui va t'amener du jeu. Là, c'est là où on en revient à ce qu'on disait, quand on parlait de la fameuse liste des 25 de Didier Deschamps, tu n'as pas la possibilité d'enlever, t'as enlevé Griezmann, mais tu n'as pas la possibilité de le remplacer par cette personne un peu différente qui va faire. Je suis d'ailleurs, quand il est rentré, je crois que Camavinga, on attend quand même un peu de revoir son niveau du Real Madrid en équipe de France.
Non, mais c'est pas pareil, il a pas les mêmes joueurs autour.
Non, bien sûr, non.
C'est
non,
pas
non,
la
non.
même mobilité.
Je veux dire que, mais c'est pour dire que c'est un grand joueur qui a fait une très très jolie saison. Maintenant, c'est pas lui qui va être cette personne différente. Donc dis-moi, dans le groupe de 25, quelle personne va, en dehors d'Antoine Griezmann, quelle personne va avoir ce côté un peu différent des autres ?
Warren Zaïre-Emery, pour moi, il est jeune, il est frêle, mais s'il y a un joueur qui est différent, en tout cas dans cette liste de milieu de terrain, et c'est le problème de la profondeur du
milieu
de terrain.
Mais il y a quoi de différent entre Zaïre-Emery et N'Golo Kanté, à part l'expérience ?
Mais c'est un joueur qui se projette beaucoup plus.
N'Golo Kanté se projette.
Ouais, non, mais c'est pas du tout pareil, c'est pas le même genre.
C'est pas le même profil.
Non, mais les amis, ils se projettent tout autant.
Dans la projection, il est pas bon.
Ils sont tout aussi bons dans la récupération que dans la projection.
Mais dans le profil de joueur, tu regardes pas assez souvent jouer Warren Zaïre-Emery. Un joueur qui peut jouer latéral, pourrait presque jouer ailier, il peut jouer en profondeur, il peut faire des appels, il peut. Il fait
moi, je vois pas de différence notable,
pas,
hein, franchement.
Absolument pas le même profil.
À part l'expérience, en plus, je vois
pas. Que c'est un joueur qui se projette un peu plus que Kanté.
Ouais, quand bien sûr, c'est un joueur qui se projette beaucoup plus. Mais on l'a vu, je sais plus quel match. Il n'y a pas eu un match amical où il y a eu. Griezmann absent et Zaire Emery qui a joué.
C'était la sélection précédente, je crois que c'était la sélection d'avant, c'était avant les matchs amicaux pour l'Euro. C'était la sélection d'avant où il n'avait pas été très bon.
En tout cas, bon, moi, on le redit, on va le redire 100 fois. Quoi, ça, c'est mon avis. On l'a vu, l'équipe de France sans Antoine Griezmann, c'est exactement, ça revient exactement au problème.
Sans Antoine Griezmann en forme.
En forme, bien sûr, c'est-à-dire ou pas là, ou bien en mauvaise forme. C'est compliqué, exactement pour les raisons, je pense, que tu as dit. C'est que le seul joueur qu'on a... Alors, il n'y en a pas 100 000, effectivement. Il y avait Christopher Nkunku. Après, on peut parler de sa forme. Pas de sa forme, peut-être qu'il ne méritait pas. À part ça, il n'y a pas
non,
très
bon... Non, mais cela dit, même quand tu regardes même l'ensemble des potentiels sélectionnés français dans le monde...
Sélectionnable.
Je ne sais pas si, effectivement, il y a un joueur de ballon type numéro 10.
Non.
On n'en a pas.
Non, il y en avait qu'on a perdu, des Nabil Fekir,
des
Dimitri Payet, des joueurs comme ça. Effectivement, le seul un peu, qui n'est même pas numéro 10, mais qui peut être 9,5, où tu peux le descendre au milieu, qui l'apporte plus, c'est Nkunku. Peut-être qu'à l'avenir... tout dépend de quelle place il va jouer avec le Real Madrid. Un Camavinga, il sera en possibilité. Il a la technique, la frappe de balle, le jeu, la vision pour faire quelque chose. Aujourd'hui, il n'y en a pas.
Mais c'est un problème de la formation française parce que ce que tu dis, Malik, c'est vrai. Et Deschamps, carrément, il fait redescendre Griezmann au milieu de terrain pour obtenir cette créativité-là. Parce que quand Griezmann il commence à l'équipe de France, il n'est pas milieu de terrain. Mais comme dans la formation française, on forme à peu près tous les mêmes joueurs, physique, robuste, ça te pose un problème de créativité, mais c'est vrai, Deschamps était obligé de faire descendre Antoine Griezmann au milieu de terrain pour souffrir cette créativité-là, et aujourd'hui, les joueurs comme ça, t'en as plus du tout, en fait.
Et on sait que Griezmann n'a pas été formé en France. Hein.
En plus.
Donc c'est à noter.
Moi, j'en vois quand même deux potentiels joueurs créatifs. Alors après, la question n'est pas de savoir est-ce qu'il pourrait être là aujourd'hui, parce que c'est non, la réponse est non. Mais des joueurs qui, dans le profil, pourraient apporter dans le futur, si leur évolution est évidemment bonne, je vois forcément Ryan Cherki, qui n'a que 20 ans, rappelons-le, et Désiré Doué, du Stade Rennais, qui est courtisé d'ailleurs par le Paris Saint-Germain, sont deux joueurs qui, pour moi, ont les qualités pour créer, d'ailleurs sont des joueurs créatifs. Après, évidemment qu'aujourd'hui, tu ne les mettrais pas en équipe de France. Ils ont des steps à passer, que ce soit en club personnellement ou même collectivement. Pour autant, on parle de deux très jeunes joueurs, de deux joueurs qui ont une expérience aujourd'hui en Ligue 1, qui ont même une expérience européenne. Donc à voir leur niveau de développement, mais je pense que l'un des deux, en tout cas, peut-être même plus doué que Cherki, pourrait à l'avenir représenter... incarner ce milieu de terrain créatif.
Moi, j'ai beaucoup de réserves, mais bon, wait and see, pourquoi
Cherki,
pas.
Le
football
c'est
est parfois surprenant. Oui, Stéphane, tu disais ?
Je disais que Cherki, c'est pour moi plus un ailier ou un attaquant que vraiment un attaquant. Je trouve qu'il n'a pas trop, par exemple, par rapport à Christopher Nkunku, même si c'est aussi plutôt un attaquant, Christopher Nkunku, il a moins, cette capacité à jouer plutôt. Peut-être moins qu'un Désiré Doué, effectivement, qui peut apporter. Mais bon, on ne sait jamais ce que ça peut devenir. À un moment, on voyait bien un joueur comme Ludovic Blas, par exemple, qui avait un potentiel aussi énorme de ça. Il y en a eu pas mal. Maintenant, c'est très compliqué. Bon, ce qui nous intéresse, c'est ici, c'est maintenant. Et dans la sélection de Didier Deschamps, moi, je redis, je pense que Didier Deschamps n'a pas de plan B. Il n'a pas de plan B. C'est Griezmann au top, mais comme pour Mbappé.
Moi, j'ai beaucoup de réserves parce qu'effectivement, quand tu regardes nos deux meilleurs joueurs, j'ai envie de dire c'est Griezmann, c'est Mbappé. Et j'ai pas l'impression que tous les deux soient en forme. Ne serait-ce que physiquement, ils sont pas dedans. Mbappé a fait un meilleur match, c'est vrai, mais il n'est pas dedans.
Il n'est pas dedans.
Et en plus de ça, il reçoit encore la blessure au niveau du nez. Mbappé n'est pas dedans, Griezmann n'est pas dedans.
Oui, mais en ce moment, dans la sélection nationale, on a besoin d'un milieu de terrain organisateur.
Non, mais je vais dire même au-delà même du milieu de terrain numéro 10.
Les deux que tu viens de citer, c'est des attaquants.
Non, mais j'entends bien, mais je vais te dire.
C'est ça qui nous manque.
Étant donné qu'on a l'habitude de jouer en transition, je te donne, tu cours, tu débordes, Ousmane Dembélé, Barcola, Mbappé. C'est ça, en fait. C'est Griezmann qui donne ses ballons à ces trois cités. Mais or, il se trouve que celui qui est censé donner les ballons est en dedans. Celui qui est censé conclure la plupart du temps, Mbappé, il est en dedans. Sachant aussi que on a un milieu de terrain qui est un peu, pour moi, un peu en déséquilibre. Donc, je ne sais pas. Il va falloir, franchement, une grosse magie ou un alignement de planète. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Eladj?
Oui, moi je pense que il faut un peu, mais il nous manque quelque chose. Et ce qui est compliqué en fait, c'est que avec ce coach qui est têtu dans ses choix et qui ne remet pas en question ses choix et qui a aussi la confiance de ses supérieurs, hein, qui dit que même s'il fait un mauvais résultat, il sera quand même là. Je pense que c'est pas le bon signal à donner quand même.
Ouais,
même
ça, si... ça a été acté depuis longtemps.
Oui,
là,
mais,
on va pas revenir là-dessus.
Oui, mais c'est ce qui réconforte
en plus,
encore
en plus,
plus.
Là, en plus, là, on est sorti des poules. Encore, on serait éliminé là ce soir. On aurait peut-être
ce qui veut
pu
dire,
faire
c'est
une révolution.
Remise en question.
Non, il y a aucune remise en question.
Même
c'est
en
bien
interne,
ça. Il y a aucune remise en question.
C'est
ça. Et franchement, s'il y a une toute petite remise en question, je pense que ça peut faire bouger les choses. Parce que là, si t'as des cadres comme ça qui ne sont pas bons, et en plus de ça, bah, ça continue dans ce sens-là, et toi, tu ne trouves pas de remède vraiment. À quoi tu sers réellement? Moi, je pense que le problème, il est là.
Les uns font les erreurs des autres.
Les huitièmes de finale arrivent, les amis. Hein, Léo, potentiellement, il y a pas mal d'adversaires. On a cité quoi? Quatre. Hein.
Ouais.
Quatre potentiels qu'on pourra. Qui pour vous est l'adversaire? On va dire quoi? Il y a la Roumanie,
la Belgique,
la Slovaquie et l'Ukraine. Potentiellement pour vous, parce que moi, avec ce que je viens de voir ce soir, je vais pas dire une équipe est passable, médiocre. Hein. Avec ce que je viens de voir ce soir, je me demande s'il ne faut pas plutôt rentrer tout de suite en confrontation avec une équipe, quoi. Ouais. Peut-être la Belgique.
Pour
pouvoir avoir une adversité réelle et tenter d'élever au moins son niveau de jeu.
Exactement.
Parce que tu nous mets face à l'Ukraine, bloc bas,
parce qu'après,
pénalty, carton rouge.
Ouais,
on peut vite sortir.
Après, t'as le Portugal ou l'équipe qui va jouer contre le Portugal juste après. Et après encore, t'as soit l'Espagne, soit l'Allemagne.
Non, mais déjà, il faut passer les huitièmes.
Oui, non, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut, oui, il faut tout de suite monter.
Faut taper la Belgique direct.
Et oui, non, faut. Oui, la Belgique, même si. Il connaît bien mon avis sur la Belgique, c'est une équipe que j'apprécie, mais je ne pense pas que la Belgique fasse partie du top 6. Et aujourd'hui, est-ce que ça serait la meilleure équipe contre qui on pourrait rehausser le niveau?
Mais tu peux, en 8e, il n'y en a pas de mieux. Hein,
oui, mais dans la poule, tu as Roumanie.
Oui, mais
je pense que
Malik
la Belgique, c'est une confrontation plus difficile parce que déjà, on connaît l'historique entre les deux sélections, on connaît la rivalité entre guillemets entre les deux sélections. Moi, je pense que la Belgique, c'est le bon test, c'est parfait. Ouais. Ça doit arriver là et pas
Et puis, il y a un truc, c'est que même une équipe censée être moyenne, voire même passable, dès qu'elle se retrouve face à l'équipe de France, ça joue.
Aussi.
C'est un peu comme en Ligue 1, dès que c'est l'Olympique de Marseille en face. Bah écoute, ça joue, ça élève son niveau.
Malik,
et j'ai l'impression...
Quand c'est le PSG, tu veux dire.
Non, arrête.
Quand c'est le PSG, tu veux dire.
Non,
là, là, tu
historiquement,
là, tu
non, mais historiquement,
non,
historiquement.
Mais historiquement, Malik, arrête.
Le PSG, c'est un club relativement jeune.
Non, arrête.
À peine quoi, 54 ans d'âge. Hein, c'est 54 ans d'âge,
non,
le PSG.
Plus que 54 ans, Malik.
70 le PSG.
54.
Oui, bah 54 PSG.
Ouais, 54.
Ma mère, elle a 51, 54. C'est une 73.
Ouais, ouais. 70, donc ça... Bon, anyway, on y reviendra. Les amis, est-ce que finalement, vous êtes inquiet pour la suite, là? Pour les huitièmes, déjà?
Oui. Je suis pas
comment... inquiet.
Mais comment on peut ne pas être inquiet?
Bon, je sais pas.
Je crois que c'est à toi que je le disais, l'équipe de France va sortir piteusement en huitième ou quart de finale. Je suis convaincu de ça. Et ça m'inquiète énormément.
Non, moi je suis rassuré par les arguments de Stéphane, je suis rassuré.
Tu ironises là.
Mais bien sûr que je suis inquiet, Malik. Franchement, contre la Pologne, on n'arrive pas à gagner. Contre l'Autriche, c'est un CSC. Contre le Canada, 0-0 juste avant, même si c'était un match amical, parce qu'on a dit que ça comptait pas les matchs amicaux. On commence la compétition. Là maintenant, on entend Didier Deschamps qui dit rendez-vous le 1er juillet. On voulait la première place, on ne l'a pas eu, mais on est quand même qualifié et c'est ce qu'on cherchait. Rendez-vous le 1er juillet avec un sourire narquois. Mais qu'est-ce que. Non, on doit être comment, sérieusement? Comment on doit être?
Ouais, c'est vrai que j'ai pas trop apprécié son interview l'après-match. Là. Il a fait une Domenech. Hein.
Enfin, moi, je garde un peu de réserve. Après, la sélection nationale n'a pas encore été convaincante. Il faut être honnête. Du coup, mais elle n'est pas mauvaise, hein. Ça, il faut le dire. Après, il y a pire que ça. Donc, pour moi, il faut garder espoir. Mais voilà.
Quand tu dis qu'elle n'est pas mauvaise, tu veux dire qu'elle est solide, en fait?
Oui, ça reste des vice-champions, même si elle n'a pas encore la mayonnaise, elle n'a pas encore prise. Mais moi, pour moi, elle n'est pas jetée comme ça. Pour moi, il y a quand même un peu d'espoir pour le futur. Mais si, voilà, il y a un peu de réserve.
Stéphane, t'es inquiet ?
Non, je suis ni inquiet ni rassuré. Je suis rien du tout de plus qu'avant d'aller à l'Euro. L'équipe de France, moi personnellement, je ne m'attendais pas à voir l'équipe de France gagner tous ces matchs 2 ou 3-0 facilement. Je vois effectivement, même si c'est un match à but contre son camp, je disais que j'avais été déçu contre l'Autriche. On a quand même battu les Autrichiens, et quelles que soient les équipes qui prennent des buts contre leur camp, il n'a pas tiré du rond central en pleine lucarne de son gardien, quoi. Ça a été apporté, ça a été amené. La pression, elle a été quand même mise pour qu'il y ait ce but. Donc je pense qu'il ne faut pas. Malik, je suis toujours entre le verre à moitié vide et à moitié plein, à choisir le verre à moitié plein. Moi, j'attends de voir. Je ne suis pas rassuré, voilà. On va dire, c'est pas inquiet, je ne suis pas rassuré, plus qu'après un match nul, effectivement. Qui était quand même assez calamiteux contre le Canada. Donc ça ne m'a pas rassuré, mais ça ne m'a pas non plus inquiété que ça. Si ce n'est que si je peux être inquiet par le niveau d'Antoine Griezmann, je m'acharne, mais je pense que c'est logique que tout le monde pense comme moi, quoi. C'est le facteur X du milieu de terrain, le joueur différent des autres, et puis il n'est pas là. Donc ça va être très compliqué, effectivement, de faire la différence.
Mais... Non, il est là, mais il est en méforme, on va préciser.
Ouais. Il n'est pas là.
Il n'est pas là. S'il y a des personnes, avec l'esprit, avec des personnes
tête,
qui nous aiment.
Les jambes sont là, mais pas la tête.
Et l'Allemagne a quand même eu de la chance de passer le dernier match, quoi, dans leur dernier match. La Croatie a...
Non, de passer premier. Il s'était qualifié.
Ouais, ouais, de passer premier. De son groupe. Donc je trouve que pour l'instant, il y a effectivement, si on s'arrête là, alors on dit tous l'Espagne, et l'Espagne va gagner l'Euro, personne ne les battra, ils ont gagné leurs 3 matchs, ils ont marqué je sais pas combien.
Non, moi ce genre d'affirmation, j'aime pas trop.
Moi non plus.
Je vais prendre encore référence par rapport à la CAN, le Sénégal déroulait.
Bien sûr, mais
3 matchs parfaits, ils se sont fait éliminer en 8e de finale.
C'est ironique aussi ce que je dis. Si on s'arrête maintenant, on pleure pour l'équipe de France en disant ils vont tomber le Portugal, l'Espagne, ils vont se prendre une raclée, il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire, c'est terminé. Par contre, l'Espagne, on dit à l'Espagne, n'importe qui, ils vont prendre n'importe qui sur leur route, ils vont leur marcher dessus, comment ils ont marché sur l'Italie, c'est ce qui est exact. Donc, je veux dire, c'est très dur de faire des trucs. Sauf effectivement, on a un gros problème. Tu mettais même Kylian Mbappé dans l'eau, même s'il fait un match très intéressant aujourd'hui, c'est pas le top 5 mondial.
Moi, je le sens emprunté.
Ouais,
moi,
c'est pas le top 5 mondial.
Et physiquement, et dans
la
tête.
Mais c'est pas le top 5 mondial.
Et en plus de ça, il reçoit encore une blessure au niveau du nez.
C'est pas le top 5 mondial, là. Il n'est pas du niveau top 5 mondial, c'est clair, quoi.
Il a besoin de vacances.
Maintenant, si on s'arrête maintenant, si on veut être inquiété, dire on gagnera jamais et tout, il y a une seule équipe où tu peux dire, si tu t'arrêtes maintenant, entre guillemets, la culture de l'instant, tu dis il n'y a que l'Espagne qui peut gagner l'Euro.
Non,
parce que l'Espagne,
Et les amis, dans ce groupe D,
le Portugal qui en a pour l'instant gagné 2, qui peut gagner
dans ce groupe D qui lui crut, l'Autriche arrive en première position, 6 points, suivi de la France 5 points, les Pays-Bas 4 points et la Pologne donc éliminée 1 point. Les amis, les Pays-Bas ont perdu aujourd'hui encore face à ces Autrichiens, 3 buts. À deux, je sais que toi, t'es pas du tout surpris. Peut-être elle a dit un peu plus.
Moi, un peu, mais après, je sais qu'on avait une belle équipe d'Autriche aussi, de l'autre côté. Hein, et on a vu, là, franchement, Koeman qui a fait les mauvais choix d'entrée et qui s'est rectifié. Parce que 35e minute, tu fais un changement comme ça, prématuré. Tu fais rentrer Xavi Simon, tu te dis, ah oui, je l'ai oublié. C'est vrai qu'il existait, or que le match d'avant, c'est lui qui te sort une masterclass quand même contre la France. En tout cas, une masterclass.
Peut-être qu'il voulait
le
reposer.
Non, mais le reposer, là, t'as un match en jeu. Tu peux être troisième et potentiellement même si c'est très peu officieusement t'es qualifié, mais officiellement tu n'es pas qualifié. Troisième, tu n'es pas qualifié. Faut attendre le résultat des autres pour qu'on te dise officiellement tu es qualifié. Donc non, je pense pas du tout. Pour moi, c'est juste une erreur qui laisse Xavi Simon sur le banc et c'est ce qui fait que derrière, après, il le fait rentrer un peu en catastrophe et... Le mauvais coaching, je pense, de la part de Koeman, et ça me surprend un peu que l'Autriche...
Est-ce que tu es surpris, justement, de voir l'équipe autrichienne arriver en première position de cette poule D, devant la France, surtout?
Elle a perdu contre la France, mais... Elle reste motivée, donc quelque part, peut-être qu'elle a envie de faire quelque chose, donc pour moi, c'est pas une grande équipe, mais bon, elle essaie de faire des efforts, donc battre la Hollande face à la France, comme je disais, la Hollande avec quelques individualités, mais n'était pas aussi une équipe qui faisait peur. Donc pour moi, aujourd'hui, si l'Autriche a fait quelque chose, il faut la féliciter, c'est mon point de vue.
Passer devant la France et les Pays-Bas, quand même, l'Autriche en Léo, il fallait le faire. Hein.
Surtout devant la France, parce que les Pays-Bas, bien qu'ils, selon moi, possèdent un effectif garni à tous les postes et sur le banc des remplaçants, c'est une sélection qui ronronne.
Même pas, je suis pas d'accord.
Ah, moi, je trouve. Quand on voit, par exemple, Joey Verman, qui est pas titulaire, qui était titulaire d'ailleurs ce soir, je crois que c'est lui-même qui a été remplacé, qui est un super joueur, mais vraiment un super joueur. Pour regarder un petit peu le championnat néerlandais, tu t'en rends vraiment beaucoup plus compte. C'est un joueur, d'ailleurs, par exemple, son profil manque à l'équipe de France, pour le coup, je pense. Pas son niveau, son profil, simplement. Mais non, l'Autriche, on en parlait avec Abou avant le match, et non, il n'y a aucun... c'est pas surprenant qu'ils aient battu les Pays-Bas. C'est surprenant qu'ils soient premiers, évidemment, parce que je pense que l'équipe de France aurait dû l'être. En toute logique, mais non, l'Autriche a une belle équipe et une équipe complète surtout. Ils n'ont pas de stars, mais ils ont une équipe avec à chaque ligne un ou voire deux bons joueurs à l'année. Donc,
ça reste très combatif.
Il y a quelque chose d'hallucinant dans cette poule quand même.
Très combatif.
Parce que si tu regardes bien, tu peux peut-être mettre avant la compétition le France, Pays-Bas, Pologne et Autriche.
Parce que la Pologne, on parle quand même.
Moi, j'avais dit depuis le début.
Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec l'Autriche en premier.
Mais j'ai mis Pologne. Et la Pologne est éliminée d'office. Hein. Ça fait un moment que j'ai mis Pologne.
L'Autriche, moi, pour moi, l'Autriche est quoi ? Pour moi, l'Autriche est première et exclusivement parce que effectivement, l'équipe de France a été très mauvaise. L'équipe de France a été mauvaise.
On pourrait dire la même chose des Pays-Bas. On pourrait dire.
Non, mais pour moi, les Pays-Bas, ils sont pas bons. Donc non, je pense pas que je suis pas étonné. Juste, c'est pour ça que j'ai insisté en disant pour moi. Non, ce que je voulais dire tout à l'heure quand on a été coupé, c'est pour toi. En plus, Koeman, pour toi, c'est un bon coach. Alors que...
Qui a dit que Koeman c'était un beau coach? Il a fait un mauvais choix.
Non, mais quand on parlait du Barça, tu parlais...
Non, j'ai juste dit qu'il avait un meilleur ratio que Xavi. Et ce qui est réel, parce que c'est les chiffres qui parlent.
C'est le pire de tous.
Pour moi, non, mais en tout cas, c'est pas un bon coach.
C'est pas ironique. Mais pour moi, Koeman, c'est pas un bon coach. Ça n'a jamais été un bon coach. Il a fait de la bouillie au Barça.
Oui, avec des Aubameyang, des Brett Waite. Oui, Brett Waite qui avait quitté Toulouse aussi pour arriver. Non, mais on marchait vraiment sur la tête. Voilà. On avait quand même... faut souligner aussi avec quel effectif il a fait ce qu'il a fait.
Pour parler de revenir sur cet euro, j'arrive pas à comprendre, ou alors j'ai mal vu le match, mais la deuxième mi-temps, par exemple, France-Pays-Bas, ça n'a pour moi été 80% de ballons balancés. Quand tu n'avais pas sur un côté, en plus, Frimpong aussi, il n'y avait pas Xavier Simon qui était sur le banc. Frimpong était sur le banc. Dumfries, je ne sais pas s'il jouait, s'il débutait. Mais c'est un truc de dingue, quoi. Parce qu'il faut quand même savoir.
Mais l'équipe de France, on balance aussi pas mal, hein, champion.
Non, on ne balance pas. Ah, non, je ne pense pas.
Entre Upamecano.
C'est pas mieux, c'est pas forcément mieux.
Non, Dumfries qui n'était pas titulaire.
Il n'était pas titulaire non plus, tu vois. Donc on a l'impression, quand tu regardes l'équipe des Pays-Bas, qu'il avait.
Il a fait tourner comme s'il était qualifié.
Il était qualifié. 4 points, t'étais qualifié.
Ouais, mais qualifié comme s'il était premier de la poule.
Voilà. Les amis, il faut gérer le vestiaire aussi. Hein. Moi, je sais pas, vous n'êtes pas là-bas, mais quand tu viens pour une compétition.
Ujnaldum, tu
viens pour une compétition
en Pays-Bas.
Non, sur le banc, Ujnaldum. Parce que Ujnaldum, il est assez bon avec le Pays-Bas.
Malik, si tu te souviens, rapidement, sur l'émission juste avant le début de l'Euro, on avait dit que le groupe de l'équipe de France était bien parce que c'était un groupe homogène. Et au final, quand on regarde au niveau des points, 6-5-4, 1, parce que forcément, il ne peut pas y avoir 4 équipes à 4 points.
C'est possible.
Si, c'est possible.
Il peut le faire demain.
C'est vrai.
Ça, c'est vraiment un groupe homogène.
Mais, ça reste un groupe homogène. Je pense que les résultats nous le confirment.
N'est-ce pas, les amis? Ce soir, les amis, il y a dans à peine 2-3 minutes, Danemark-Serbie. Et Angleterre-Slovénie, rapidement, vos pronostics? Danemark-Serbie?
Danemark-Serbie?
Oui.
Moi, je pense les Danois, je pense. Mais je vais dire pas score parce que je suis mieux en disant nul ou comme pour le je sais pas, il y a eu 1-1, Italie, tout, j'avais dit nul, mais j'avais dit 0-0. Donc non, moi, je vois quand même les Danois et l'autre, c'est Angleterre quoi? Slovénie?
Oui.
Ouais, bah, l'Angleterre va, je pense que l'Angleterre.
Donc, toi, Danemark et Angleterre.
Ouais,
et
Angleterre,
toi, Alfred.
Premier et Danois, deuxième.
Danemark, Serbie, tu vois qui
Danemark.
Dans le micro, s'il te plaît.
Danemark, Angleterre, je pense.
Danemark, Angleterre pour toi aussi. Eladj.
Oui, moi aussi, hein, c'est une grande surprise. 1-0 donc, pour Danemark. En tout cas, Danemark,
moi, je pense pas de score, mais quand même, ils vont gagner.
1-0 et l'Angleterre, je pense aussi. Ils vont
logique respectée pour vous trois, en fait. À vous.
Danemark 2, Angleterre 3.
Bah, tu vois, c'est carré. Hein.
Léo. Moi, je pense Serbie-Angleterre.
Ah ouais,
ouais.
Tu vois les Danois out.
Je pense que c'est possible, effectivement. Au vu de ce qu'on a vu sur
possible,
le début.
Hein.
Oui, évidemment, mais au vu de ce qu'on a vu sur le début d'Euro.
Les Anglais, ils peuvent sortir ou pas? Non, ils sont qualifiés, les Anglais.
Ouais.
Moi, quasiment, ouais.
Tu voulais te l'aider. Tu voulais te faire de. Tu vois pas de défaire des Anglais.
Et puis, on continue, les amis.
On va les avoir en face, surtout.
Demain, 26 juin, on a Slovaquie-Roumanie, Ukraine-Belgique. Et un certain Géorgie, Portugal. Bon, les Portugais, ils sont qualifiés. Les Belges, je ne sais pas trop, mais je pense qu'ils
sont... Non, ils ne sont pas qualifiés, mais tous dans leur groupe.
Ce sera le futur adversaire de l'équipe de France, ouais, demain.
Après, donc, ils peuvent tous se qualifier, ils sont tous nuls, quoi.
Slovaquie, ouais, mais c'est ce qu'on dit, et après, on va faire des matchs nuls, les amis. Soyez un peu humbles. Slovaquie-Roumanie.
Slovaquie-Roumanie, demain. La Slovaquie.
Ah ouais, tu vois les Roumains out.
Ah ouais.
Et toi, Alfred, Slovaquie-Roumanie, là?
Match nul.
Match nul pour toi? Ça va être chaud.
Ouais, moi, je vois un match nul, ça arrangerait les deux, parce que les deux seront qualifiés avec un match nul, avec 4 points. S'il y a une équipe de l'autre côté qui gagne, ils seront qualifiés en tant que meilleur troisième. Donc, 4 points, moi, je verrai.
Donc, il y a un potentiel arrangement, j'ai rien dit.
Mais ils vont tous faire nul.
Tous à 4 points,
non,
c'est
moi
réglé.
Aussi, je pense non, que les ça va se finir non, sur un match nul, et que la Belgique va quand même faire le taf.
Et Ukraine, tu as donné ton pronostic?
Non, mais Belgique et...
Slovaquie-Roumanie d'abord.
Nul et...
Et ouais, Ukraine-Belgique?
Victoire de la Belgique.
Ah, malgré tout. Attends, les Ukrainiens, ils se sont réveillés. Hein. Wow. Eladj?
Sur
Ukraine-Belgique.
Ukraine-Belgique, je pense que Belgique, ils vont gagner. En tout cas, j'espère pour Stéphane.
Avec ton ami Doku.
Ah, j'ai regardé le match.
Ukraine-Belgique.
Je pense que la Belgique fera la suprématie, moi, je pense.
Et toi?
Moi, bien sûr, la Belgique. Ouais, la
ah
Belgique.
Ouais?
Ah oui, ils vont gagner.
Je sais que t'es pas trop fan.
Si, si, je suis fan de la Belgique. Moi.
Ah, c'est plutôt Eladj.
Ouais, non, moi, je suis fan.
Léo, je pense que la Belgique va faire le taf aussi.
Ils vont faire le taf. Hein. Géorgie-Portugal, Cristiano Ronaldo, CR7, tu dis quoi?
Ils vont enfin marquer.
Non, on dit CR7, c'est pas toi, CR7.
Va-t-il jouer?
CR7, tu dis quoi?
Je pense que tu connais la réponse.
Non, c'est une vraie question.
Il n'a pas encore marqué, il va jouer.
Ils sont qualifiés, non?
Non, mais il n'a pas encore marqué.
Alors, je pose ma question, est-ce qu'il va jouer?
Mais bien sûr qu'il va jouer. T'as pas entendu ce qu'il a dit, le coach? On lui a posé la question, on lui a dit qu'il va jouer tous les matchs. Il a dit, il a joué combien de matchs? Donc, la question est vite répondue, je pense.
Et puis, je t'ai dit qu'il n'a pas ouvert son compteur, le mec. C'est un orgueilleux, attention. À bout.
Ils vont gagner 2-0.
Géorgie-Portugal.
Ouais,
2-0
et but
de CR7. En plus, Géorgie, ça paraît relativement faible. Donc, ce sera peut-être l'occasion pour lui de faire un doublé. Hein, attention.
Ouais, un petit 3, hein, moi, je vois.
Ah, pour les Portugais.
Ouais, un peu de spectacle avec un petit but de la Géorgie.
En plus, ça marque beaucoup, toi, beaucoup de buts. Hein, ouais, les Portugais. Stéphane.
Ouais,
Portugal aussi.
Ah oui, le Portugal va gagner. Mais je peux attendre.
Et toi, Alfred?
Ah, mission complète pour Portugal.
Portugal aussi.
Léo qui est blessé, hein. Qui est pas là, qui est suspendu.
Aucun soutien pour Willy Sagnol et sa Géorgie.
Et moi je vois Portugal aussi.
Oh, qui fait un beau boulot avec la Géorgie.
Une grosse pensée pour Miko Tadze, mais voilà quoi.
On n'est pas gentil, vous n'êtes pas gentil. Alors les amis, rapidement, on va basculer dans la Ligue 1. On va parler de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a officialisé un accord de principe avec Roberto De Zerbi. Mais pourquoi n'ont-ils pas encore signé définitivement une bonne fois pour toutes? Est-ce que vous trouvez que la signature de De Zerbi tarde finalement, Léo?
Non, parce que de ce que j'ai pu lire...
Ça fait quasiment un mois, on nous parle De Zerbi. Tu signes, tu commences à recruter et puis on passe à autre chose.
De ce que j'ai pu lire, il travaille déjà de concert avec le secteur sportif. Là, il profite d'une pause, il sera là quelques jours avant la retraite. La reprise.
La reprise.
Désolé,
c'est des entraîneurs les plus jeunes.
Je suis désolé. Non, avant la reprise, il a déjà ciblé ses profils. D'ailleurs, il y a le joueur de Watford là, qui arrive.
Qui va signer là.
Connaît.
C'est presque fait.
Et ça, c'est une piste, c'est une demande de De Zerbi, donc voilà. Par contre, je trouve ça un petit peu ridicule, effectivement, de faire un communiqué pour annoncer un accord.
C'est pas ridicule.
D'où la question, les amis. Bah,
si c'est ridicule.
Non, c'est pas ridicule.
Face à non, non, mais là, explique-toi, Abou, parce c'est que pas, moi, c'est moi je ne comprends pas. Ça fait quasiment un mois.
Oui.
On nous annonce des herbites.
C'est
ici,
pas ridicule de
on
faire.
On passe à autre chose.
Oui, mais c'est pas ridicule
c'est quoi,
de faire.
Tu... Aujourd'hui, tu peux signer avec un. Tu envoies un fax.
Il y a d'autres papiers et tout à gérer. Mais c'est pas ridicule dans le contexte marseillais d'annoncer. Bah, même moi, ça m'a surpris. Je vais le communiquer hier. Je dis, OK, les gars, vous nous apprenez rien. Mais dans le contexte marseillais, c'est pas ridicule d'annoncer un accord avant la signature. Parce que si vous suivez les réseaux sociaux et ce qui se passe actuellement dans le contexte marseillais, depuis qu'on a annoncé que les Saoudiens veulent racheter l'AS Monaco, c'est le feu, on dit n'importe quoi. Ça fait deux semaines que les insiders marseillais, ceux qui pourrissent le club de l'intérieur, notamment par le biais de Rachid Zerwal et ses petits bonhommes, ça fait deux semaines qu'ils pourrissent les réseaux sociaux à dire que De Zerbi, vous voyez pourquoi c'est long, pourquoi ça se fait pas, c'est parce qu'en fait le club va être racheté par l'OM va être racheté par les Saoudiens, etc. Et je pense que le bord marseillais veut juste se protéger de ça, mettre ça de côté, ça y est, vous voyez, c'est bon, là c'est fait, il y a un communiqué, il va signer, ça va être officiel.
Mais tu signes dans ces cas, c'est bon.
Mais tu sais pourquoi je trouve ça
qu'il y a
ridicule.
Des trucs administratifs qui font que c'est un peu long, mais bon, parce qu'il y avait déjà l'accord entre est-ce que le directeur technique vient ou pas?
Moi, j'attends de voir. Hein. La question n'a pas été posée de façon hasardeuse. Juste
pour répondre à ça, Malik, oui. Est-ce que tu sais pourquoi je trouve ça ridicule? Juste parce que tu annonces ça et on sait que dans le foot, tout va très vite. Imagine, il se passe quelque chose qui empêche la venue finalement de De Zerbi.
Juste parce qu'il n'a pas deux joueurs qui souhaitent voir venir.
Ça va se faire.
Parce qu'il connaît les antécédents quand même de l'Olympique de Marseille.
Le problème, s'il y a un problème qui pourrait venir, ça serait éventuellement être du staff. Parce que ce n'est pas De Zerbi qui signe à l'OM. C'est De Zerbi plus 8 adjoints. Quoi. Donc il faut préparer les contrats, il faut faire lire les papiers à tout le monde. Alors peut-être c'est ça, peut-être c'est d'accord avec lui.
Et puis
lui.
Peut-être exit certains qui sont en place.
Voilà, j'en sais rien. Mais en fait, c'est vrai que c'est un peu ridicule. Des fois, si on veut être un peu méchant, on a l'impression un peu des fois que c'est un peu la méthode couée, quoi. Dire bon, on en parle, mais il n'a pas signé. Bon, on va dire officiellement qu'on est d'accord. On va lui demander s'il veut bien. C'est une manière de se rassurer. Ou comme le dit Abou, effectivement, par rapport à tout ce qui se dit, accord de principe. Moi, ça me paraît très bizarre, comme on dit. Est-ce qu'il est en vacances, pas en vacances? Est-ce qu'elle a été reportée là? J'ai cru entendre que la reprise de l'Olympique de Marseille.
Ce que j'ai entendu aussi, mais on n'a pas de communication officielle du club.
Ça. Parce que c'est quand même. J'ai l'impression des fois qu'on mesure pas trop les enjeux, quoi. Je veux dire, même lui, quoi, De Zerbi, il est en vacances, machin. Moi, je comprends pas s'il est d'accord et tout. Pourquoi il est pas déjà sur place en train de travailler sur le recrutement des. J'avoue. On va voir. Il y a d'un côté, tu vois, t'as Longoria. Il y a apparemment, ils vont pas. Il y a Benatia, qui est conseiller sportif, directeur sportif par intérim. Après, il y a Rossi qui arrive pour être directeur sportif.
Pas directeur sportif, Rossi. Conseiller, c'est pour conseiller. Il prend pas le poste de directeur sportif.
Non,
on laisse la partie sportive. Non, en fait, ils font comme ils ont fait avec.
Pas directeur sportif.
Ils font comme ils ont fait avec, comment il s'appelle, Ribalta. C'est un trio magique.
Mais là, c'est un quator. C'est-à-dire que pour un joueur, il faudra que les quatre soient d'accord. Oui. Longoria, Benatia.
Ça fait un peu trop, non
Rossi et De Zerbi. Quoi, bref. Espérons.
Si chacun reste à sa place, ça fait pas trop.
Plus les 8 adjoints de De Zerbi. Ils ont intérêt d'avoir une compo d'équipe, à mon avis. Ça va réfléchir.
Là, est-ce que pour toi, ça tarde cette signature de
Oui,
de
pour
Zerbi.
Moi, ça tarde, bien évidemment. Bien sûr, au début, on parlait de Conte Sao, ensuite, après, de Zerbi. Normalement, tu viens directement, tu prépares en plus, il donne des exigences sur le mercato. Il dit que je veux tel joueur. Pour moi, il doit être là sur place tout de suite, faire l'équipe. Tu arrives dans un nouveau championnat, dans une nouvelle équipe. Tu dois être au présent pour ramener tes joueurs et motiver les troupes. Je pense que oui.
Là, les joueurs, ils sont même pas encore là, ça sert à rien que lui, ils viennent. Ils font leur rentrée la semaine prochaine.
Mais tu peux signer au moins.
Oui, mais il sera là. C'est une annonce officielle que je vous fais, il sera là. Si De Zerbi ne signe pas, je fais le tour du plateau nu. De Zerbi sera là.
On espère qu'il va signer, du coup. Hein.
Léo et Cali, on garde bien cette capsule, ce moment, à 21h07, on garde bien. Et là, il y a un pari, là, justement.
Non, comment voir? C'est à vous.
Eh, pardon,
Malik
à vous, plutôt.
Si tu veux voir.
Pardon. Surtout pas pour l'OM, en plus.
Bah oui, premier juillet, deuxième
juillet. Bah écoutez, moi, j'ai posé la question parce qu'en fait, le communiqué officiel, justement, qui est tombé hier, je crois, franchement, je pense que ça a finalement attisé ma curiosité. Et j'ai pas totalement confiance dans ce type de communiqué parce que quand tu es sûr de quelque chose, tu l'as annoncé, on est en plein euro, tu nous laisses finir notre Euro éventuellement et tu attends que De Zerbi arrive signer. Mais nous balancer comme ça, hein, De Zerbi arrive, machin, on a l'impression que toi-même, t'es pas totalement convaincu.
Apparemment, c'est
à suivre. Parce qu'on a vu Marcelino partir au bout de quelques semaines.
Hein.
Tout est possible à Marseille.
Hein. De l'OM, pardon. Une information de l'équipe, apparemment, qui annonce que la reprise de l'entraînement aurait été repoussée et que, bien sûr, en explication, ils disent que le fait que ça ne soit pas encore officiel avec De Zerbi soit la raison de ça.
Moi, je pense, hein, moi, j'ai une hypothèse. Je pense que le mec, De Zerbi, a demandé un certain nombre de... Je ne pense même pas qu'il soit au niveau de son staff. Je pense qu'il a demandé un certain nombre de joueurs et il attend de les avoir. S'il ne les a pas, je te jure que tu auras un retournement de situation. Affaire à suivre. Les amis, on passe au quiz. Quiz. Alors, on va s'amuser un peu, puis on va boucler la boucle. Ah, Léo, arrête de regarder mon téléphone, là. Fais pas comme Lucas. Alors, quiz pour vous, les amis. Quelle est la mascotte officielle de l'Euro 2024?
La bière.
Bah, je sais pas.
Un chevreuil,
Albert.
Ok, Albert.
Combien de villes allemandes accueillent des matchs de l'Euro 2024?
7. 8.
Non.
10.
10. Nedim Bajrami, joueur de l'équipe nationale d'Albanie, a marqué le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro. Au bout de combien de temps a-t-il marqué ce but?
11 secondes.
8.
Non.
24.
Non.
7 secondes.
Non.
12.
Non.
1 minute 28.
Dites non. Quelque chose.
19 secondes.
Je suis pas à 37.
Non.
19 secondes.
19.
Non, c'est dans les 20.
Oh, 20. Et toi?
19.
Non. Il y a quelqu'un qui était pas loin. C'est Léo.
T'étais
pas loin, Léo.
29.
24, j'ai dit.
T'étais pas loin.
26.
23.
Ah. Oh.
Et c'est le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro.
Ouais, bon, c'est fort.
On a eu eu les deux buts les plus tardifs de l'Euro.
On a eu la chance de les avoir, justement. De les voir. Hein. En quelle année le but en or a été supprimé?
2002.
Non.
2004, j'en fous.
2004.
2002, c'est Coupe du Monde.
Ouais. Comment s'appelle la coupe récompensant le vainqueur de l'Euro?
Le trophée Henri Delaunay.
Bravo! Oh, ça, c'est la culture, ça. Donc, Henri Delaunay, hein, premier secrétaire général de l'UEFA et membre important dans la création de l'UEFA, qui est décédé en 1955. Il est français. Il était français, il est français. Quel joueur est désigné meilleur joueur du tournoi à l'Euro 2020?
C'est pas Kane.
C'est récent, ça. Hein. C'est Darus, c'est pas là.
Donnarumma.
Non, Jorginho.
Meilleur Chiesa. Joueur. Non, meilleur joueur. Saka. Meilleur joueur de l'Euro 2020.
T'as dit Darius n'est pas là.
Du coup, c'est un gars. Non, parce que Darius m'a dit je pose des questions de 1900. Il voulait des questions des années.
Oui, je regarde en plus.
Des années 2000. Saka.
C'est pas Ariken.
Non.
C'est pas Donnarumma.
Donnarumma.
Oui, mais j'ai dit.
Non, mais t'as dit non. T'as dit oui, et puis tu dis non, c'est un gardien.
c'est un gardien.
Dernière question, les amis, dernière question. L'Euro 2024 se terminera par la finale le 14 juillet au stade olympique de Berlin, pardon. Quelle est la capacité de ce stade?
95 000 personnes.
Source UEFA, hein, je dis bien source UEFA.
72 000... Non, 77 500, non?
85 000 personnes.
Non, en dessous.
82.
En dessous.
75.
En dessous.
79, un truc comme ça.
71 000 spectateurs pour le stade, justement. Ouais, un peu moins que le stade de France. Hein. Merci, hein, les amis, d'avoir participé à cette émission débrief Pologne-France, France-Pologne, plus exactement un but partout. La France est malgré tout qualifiée pour les huitièmes de finale. On va se donner rendez-vous justement pour ces huitièmes de finale. D'ici là, restez connectés sur Mon Paris FM YouTube, monparisfm.com, ainsi que sur le média Oudiné. Léonard et Cali réalisaient cette émission. Il est 21h11. On se salue. Ciao.